Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Juillet 2025, merci de nous choisir pour l'émission Club de la presse que nous animons, où nous avons le plaisir d'animer depuis Gbodjome dans les lacs 3, plus précisément dans la cour royale du chef canton de Gbodjome. C'est le premier numéro de la radio du littoral pour le compte de cette année 2025. Nous redémarrons ainsi l'aventure avec le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Wakaresip, qui vise à lutter contre l'érosion et les inondations côtières. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitok Betomega est à la mise en onde, Jérôme Dakuta est à la mise en ligne, la technique est assurée depuis Lomé par Thomas Etekosida TV et je suis Pascal Ossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Construction de 22 épis, dont 20 à Gbodjome, en allant à Gbodrafo, 2 épis à Goumoukopé, rechargement en sable des casiers, comblement des bras à Lagunaire, mort d'Anero, ce sont là, entre autres travaux qui seront exécutés dans les 18 prochains mois sur le segment Gbodjome à Gbodrafo et Goumoukopé. Vous aurez bien deviné, la radio du littoral 29e et numéro et s'anime aujourd'hui autour du thème « Mise en œuvre du parc et démarrage des travaux de protection côtière du segment Gbodjome à Gbodrafo Goumoukopé ». À travers cette émission, nous essayerons d'apporter des précisions sur l'éminence des travaux du segment de la côte, la consistance des travaux et la mise en œuvre du pas avec, bien sûr, les différents acteurs impliqués dans la réalisation de ces travaux. Ils sont bien sûr, je veux parler de ces acteurs impliqués de ces projets qui sont autour alors de cette table avec moi. Je ne serai pas seul, bien sûr, dans cette émission. Je suis déjà accompagné alors de mes confrères journalistes, bien sûr, qui vont co-animer cette émission avec moi, et des confrères journalistes dont les médias sont des partenaires sur ce projet. Il y a d'abord Hugues Vignon à Tikpo qui est autour alors de cette table avec nous, bien sûr. Hugues, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Très bien, très bien, très bien.
Je rappelle que vous êtes journaliste à Taxi FM. Taxi FM qui est l'un des médias aussi partenaires. Partenaire sur qui Waka peut bien compter.
Tout à fait. Je pense que ce partenariat que nous avons débuté depuis bientôt quelques années se poursuit. Et on remercie nos partenaires de Waka et tous les confrères qui sont toujours sur ce projet-là.
Merci beaucoup, Hugues, d'être avec nous et merci d'avoir accepté aussi notre invitation. L'autre qui est aussi avec nous depuis le début alors de ce projet et qui est toujours fidèle à ce projet, bien sûr, c'est Radio RTDS et Félix de Savy. Là, Félix, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de RTDS.
Félix, comment vous allez?
Je suis en pleine forme, Dieu merci. Je suis très heureux de nous retrouver, de retrouver aussi les auditeurs depuis cet temps. Et ça fait 6 mois qu'ils ne nous ont pas suivis. Je leur dis, voilà, le contact est renoué. On y va avec Waka et le gouvernement togolais.
Effectivement, on y va avec Waka et le gouvernement togolais sur ce projet, puisque c'est notre contribution également à ce projet. Il faut assez de communication autour de ce qui se fait au niveau même d'ailleurs du projet Waka Et une, la seule dame qui est parmi nous, c'est bien Juliette Candet. Juliette, bonjour.
Bonjour Pascal, auditeur, bonjour.
Très heureux de te retrouver là.
En tout cas, je suis ravie de retrouver cette ambiance autour de la radio du littoral. Ça fait plaisir de renouer, comme le disait Félix.
Voilà, vous êtes journaliste à Radio Lomé, la mère des radios en direct.
Exactement.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous n'oublions pas les autres médias partenaires, notamment le journal Liberté, le journal L'Union pour la Patrie, Radio Mokokpo, RVV, Nana FM, Togo Presse et Togo Fest, qui sont aussi des partenaires sur ce projet. Alors, nous allons commencer cette émission, puisqu'il est quand même de bon ton que quand vous allez dans une localité, il faut retrouver alors le chef de la localité pour que le chef vous souhaite alors la bienvenue. C'est ce qui est de tradition chez nous. Et donc, Toby est là avec nous. Je veux bien parler alors de Toby Koku Ati 4, et chef canton de Gbodjome. Toby, bonjour.
Bonjour. Pascal Ocho.
Toby, j'espère que vous allez bien.
Très bien.
Nous sommes aujourd'hui dans votre localité et je ne sais pas quel est votre ressentiment quand vous accueillez déjà Waka dans votre localité, surtout dans votre palais aujourd'hui.
Un sentiment de fierté, de joie qui m'anime ce matin en voyant tout ce monde autour de moi. C'est un sentiment de fierté.
Un sentiment de fierté. Nous sommes aussi très heureux quand même d'être chez vous ce matin. Et nous aimons le dire au micro, vous êtes un Toby moderne avec tout ce que vous aimez faire. Il y a beaucoup de changements déjà à Gbodjome, à travers, sous votre actif même d'ailleurs, allons-nous dire. Toby, nous sommes aujourd'hui à Gbodjome et vous accueillez bien sûr au Waka. Et d'abord, quel est votre message à l'égard de cette population qui vous écoute?
Vénéré, d'abord, le maire de la commune des Lacs 3, vénéré chef traditionnel, monsieur le coordonnateur du projet Waka, monsieur le directeur de l'entreprise Boscalis ou son représentant, messieurs les hommes de médias, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole devant vous pour souhaiter la bienvenue à toute la délégation ayant fait le déplacement et ensuite remercier les initiateurs de ce projet et tous ceux qui l'ont mis en œuvre. La délocalisation du club de la presse du canal FM vers Gbodjome démontre la volonté de Waka de bien former, de bien informer, d'expliquer davantage à la population les travaux d'aménagement de la côte. Waka mérite nos félicitations. Que Dieu bénisse toute la délégation. Recevez mes salutations chaleureuses.
Alors, Toby, merci beaucoup pour ce message. Vous avez d'abord remercié justement les uns et les autres pour leur contribution alors à ce projet. Et vous avez également imploré la grâce de Dieu quand même sur les uns et les autres. Et vous nous accueillez aussi dans une bonne condition. Merci beaucoup. Toby, déjà, vous accueillez justement Waka, le projet Waka chez vous. D'abord, comment vous avez appris d'abord ce projet et comment vous l'avez accueilli aussi?
J'ai accueilli ce projet avec joie parce que ça fait longtemps que la mer a détruit nos biens, surtout les cimetières, les maisons. Et quand nous avons appris le projet, Waka veut nous aider, nous sommes très ravis. Et nous les avons accueillis avec satisfaction.
C'est vrai que nous avons fait un tour tout de suite pour aller au niveau de la plage. Et nous avons vu qu'il y a des habitations qui ont été envahies par la mer. Comment vous vivez cette situation d'érosion côtière?
Cette situation, nous sommes très ébranlés par la destruction de la mer. De nos biens. Nous sommes très ébranlés, mais ça fait pitié que nos biens sont détruits, les cocotiers, les cimetières sont détruits au niveau de la mer. Donc ça nous a fait pitié, c'est ce que je peux dire.
Maintenant, Waka est là et il y a des épis qui seront placés tout au long de la côte. Ça, c'est une bonne chose.
Une bonne chose. C'est une bonne chose. Peut-être nous allons retrouver nos terres, une partie de nos terres qui sont parties dans la mer. Nous allons retrouver une partie de nos terres qui sont parties dans la mer. Donc, nous sommes très contents de voir le gouvernement nous aider ici. Nos remerciements vont à nos dirigeants, à nos autorités. Nous les remercions. Très bien.
Merci beaucoup, Toby Kokou Ati, quatre chefs cantons de Bodzomé. Merci d'être passé chez nous et merci d'avoir dit aussi quelques mots sur ce projet. Nous avons compris que c'est une satisfaction pour vous d'accueillir ce projet ici qui permettra justement d'arrêter l'érosion côtière, ce qui fait même d'ailleurs que vos terres sont envahies. Merci Toby d'être passé chez nous.
Merci.
Alors, maintenant, nous allons accueillir le coordonnateur adjoint du projet Waka et docteur Andou Zibril. Docteur, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien, docteur.
Oui, je me porte à merveille.
Dieu merci. Alors, je rappelle que vous êtes le coordonnateur adjoint chargé du volet protection côtière. Et là, nous sommes bien sûr avec la personne indiquée.
Exactement, la très bonne personne.
Et voilà, je dirais même d'ailleurs que c'est votre baptême de feu avec cette radio du littoral, puisque vous êtes le tout nouveau coordonnateur adjoint. Et là, je pense, comment vous appréciez d'abord cette émission?
Tout d'abord, je tiens à dire merci au chef canton de Bodzomé pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec lui, et à chaque fois, l'accueil est toujours pareil. Chef, recevez nos remerciements. Et par rapport à cette émission, l'initiative est très louable. Et comme on le disait, ce n'est pas la première édition. L'objectif, c'est d'informer la population suffisamment sur les travaux en cours, sur ce que le projet a eu à réaliser, de les impliquer, d'obtenir leur adhésion afin que ces projets puissent aboutir.
Alors, monsieur le coordonnateur, faisons un peu de la pédagogie. Quand on parle du Waka, c'est vrai que peut-être il y a des gens qui sont parmi nous qui ne savent pas concrètement ce que c'est. Le projet Waka, qu'est-ce que c'est?
Le projet Waka, de façon générale, est un projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui fait partie d'un vaste programme de gestion du littoral piloté au niveau régional par l'UOMOA. Au niveau national, c'est un projet qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement. Et il faut dire qu'initialement, ce projet a débuté par 6 pays, notamment le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Sao Tomé-Principe, le Sénégal. Mais vu la tangibilité des différents résultats obtenus, ça a suscité l'adhésion de 3 autres pays, notamment le Ghana, la Gambie et la Guinée-Bissau. C'est dire que le projet apporte une plus-value à nos différentes communautés situées dans la zone côtière.
Alors, monsieur le coordonnateur, qu'est-ce qui nous amène concrètement ici aujourd'hui? Parce que c'est vrai, quand il y a une localité que le besoin se fait sentir, c'est là où Waka se transporte pour aller pour régler le problème. Concrètement, qu'est-ce qui nous amène à Bodzomé?
Bon, avant d'aller sur ce qui nous amène à Bodzomé, j'aimerais rappeler l'un des objectifs du projet Waka. C'est le renforcement des infrastructures de protection côtière. C'est le premier objectif spécifique du projet Waka. Et c'est ce projet-là et ce premier objectif-là qui nous amène ici directement à Bodzomé. Il s'agit de quoi? Il s'agit du démarrage des travaux de protection côtière. Il faut se rappeler qu'avant ce projet de travaux de construction de protection à long terme, il y a eu des protections d'urgence qui ont été faites pour stabiliser un tant soit peu la côte sur ce segment Bodzomé, Agbodrafor et Goumoukopé face à l'urgence de la menace. Actuellement, l'État togolais a pu suffisamment mobiliser les moyens. Encore une fois, nous allons profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement togolais qui a pu mobiliser suffisamment les moyens pour lutter à long terme contre les régions côtières. C'est-à-dire qu'après ces travaux, nos populations sur la zone côtière vont dormir paisiblement, vont vaquer à leurs occupations sans menace sans risque de voir leur terre emportée par l'érosion côtière.
Alors, donc, ce qui veut dire qu'au terme alors de ces travaux, ce sera une satisfaction totale pour les populations.
Au terme de ces travaux, plus de 8000 ménages ne seront plus confrontés au risque d'érosion côtière. Et ces populations pourront voir également leurs moyens de subsistance être renforcés. Ce qui veut dire que pendant ces périodes de travaux, nous sollicitons quand même l'adhésion et l'implication des différentes populations sur cette côte-là. Ce qui est sûr, au terme de ce projet, ça va être une satisfaction totale pour la population sur ce segment de côte.
Alors justement, c'est quoi le message que vous avez, Waka, aujourd'hui, à adresser à la population, puisque nous avons l'assistance qui nous écoute, et au-delà de cela, tout Bodjomé nous écoute à travers cette émission, et même ceux qui sont les riverains, tous ceux qui sont autour, autour du littoral, elles nous écoutent. Si vous avez un message à donner à ces populations, qu'est-ce que vous allez leur dire?
Mais si on a l'habitude de dire quand vous faites quelque chose pour moi, sans moi, forcément c'est contre moi. Donc raison pour laquelle, dès le départ, Waka s'est levé très tôt et a impliqué la population sur cette zone du projet. C'est-à-dire que nous sommes venus faire des sensibilisations de proximité. C'était dans cette même cour royale-là. Nous avons écouté, recueillir les préoccupations des différentes populations et ces préoccupations sont prises en compte. Les collègues spécialistes viendront par rapport aux mesures préparatoires en lien avec les indemnisations et par rapport à la consistance même des travaux. Et le message principal que j'aimerais adresser à la population de Bodjomé, c'est d'être patient pour ces travaux et de s'impliquer. Parce que le démarrage des travaux va forcément perturber un tant soit peu un certain nombre d'attitudes dans leur vie quotidienne. C'est pour 18 mois, comme vous l'avez dit. Et après ça, nous allons reprendre nos activités.
Monsieur le coordonnateur, merci d'être passé chez nous.
Merci beaucoup, monsieur Pascal.
Je rappelle que vous êtes docteur Andou Zibril, coordonnateur adjoint chargé du volet protection côtière. Merci d'être passé chez nous. Vous l'avez si bien dit tout de suite qu'il y a des spécialistes qui seront bien sûr sur ce projet. Et des spécialistes, l'un des spécialistes, c'est Monsieur Zébio. Monsieur Zébio, ce nom dit beaucoup de choses quand même dans la tête des riverains qui sont bien sûr autour, qui sont concernés par l'érosion côtière. Monsieur Zébio, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, très bien. Et vous?
Ça ne va pas, la grâce de Dieu. Je rappelle que vous êtes un ingénieur senior, bien sûr. Et nous sommes revenus alors sur ce titre dans nos différentes émissions. Mais parlons concrètement alors de ce projet qui nous amène aujourd'hui à Bodjomé, puisque ça s'étend sur le segment Bodjomé, Boudrafog ou Mokopé. Et concrètement, qu'est-ce qui motive alors ce projet?
Oui, comme vous l'avez dit, Waka, le projet Waka, et comme l'a dit aussi le coordonnateur adjoint, le projet Waka a démarré depuis 2018. Et sa vocation première, c'est la lutte contre l'érosion côtière. Donc Waka est déjà intervenu donc de Agodrafo jusqu'à la frontière. Et ce travail d'ailleurs avait été fait de commun avec le Bénin. Comme l'a dit le coordonnateur national adjoint tout à l'heure, c'est un projet régional. Et donc ce travail a été fait avec le Bénin. Pourquoi c'est un projet régional? On ne va pas y revenir. On l'avait déjà dit dans d'autres émissions. Puisque, juste un petit rappel, quand nous faisons les travaux au Togo, ça crée des problèmes au Bénin. Je ne veux pas trop aller en détail. Mais maintenant, pourquoi? Et qu'est-ce qui motive le segment maintenant Bodjomé à Boudrafo? C'est vrai, comme je viens de le dire, au départ, c'est seulement le tronçon Agodrafo frontière qui était prévu. Et il était également prévu de Bodjomé au port de Lomé, parmi la zone qui est sujette à l'érosion pour la côte du Togo, qui était fait, normalement, qui devait être, en tout cas, être fait par le ministère des Infrastructures, donc le ministère des Travaux Publics. Donc il restait le milieu Bodjomé à Agodrafo. Et donc le gouvernement était en train de chercher depuis un financement donc pour ce segment Bodjomé à Boudrafo, donc depuis 2018. Et d'ailleurs, même le coordonnateur adjoint l'avait dit tout à l'heure, en attendant donc de trouver ce financement, le gouvernement a demandé donc au ministère de l'Environnement où le projet Waka est logé d'intervenir de façon d'urgence et donc de mettre donc des ouvrages provisoires. Donc malgré que nous avons mis ces ouvrages d'urgence provisoires pour arrêter soit peu le désastre que faisait la mer, donc il était important donc de trouver vraiment des financements qui permettent vraiment de protéger à long terme ce segment. Et c'est ce que le gouvernement a pu trouver en 2023, un don de Invest International, une banque hollandaise, et un prêt donc de l'Agence française de développement. Donc c'est comme ça donc qu'il faut protéger cette partie qui, je rappelle, fait partie vraiment des zones de la côte togolaise où l'érosion est très forte, hein, particulièrement à Dissem. Si les gens d'Adissem sont ici, ils pourront vous le témoigner. Et je crois le chef canton l'a dit tout à l'heure, là-bas, l'érosion avance à plus de 20 mètres par an.
Alors, qu'est-ce qui explique cela?
Mais ce qui explique l'érosion, bon, si vous voulez que je revienne sur l'érosion, donc l'érosion de façon générale, vous savez, il y a les changements climatiques, mais particulièrement sur nos côtes, l'érosion s'est acerbée en plus à cause de certaines activités anthropiques donc de l'homme, notamment les ouvrages que nous mettons en place, qui sont des ouvrages que je dirais perpendiculaires à la mer et qui empêchent le fonctionnement donc normal de la mer. Pour aller en termes vraiment très simples, la mer, vous le savez, est nourrie par les fleuves. On dit de façon, dans notre jargon simple, que c'est les fleuves se jettent dans la mer. Enfin, ils ne se jettent pas seulement. Donc, les fleuves nourrissent la mer de sable. Et le sable, la mer a besoin de sable pour son fonctionnement. S'il ne trouve pas le sable, il ne peut pas bien fonctionner. Et c'est ce qui crée l'érosion. Donc, en mettant en place un ouvrage qui est perpendiculaire sur la côte, ce sable, qui est la dérive naturelle du sédiment, donc qui permet à la mer de fonctionner, est bloqué. Donc, par l'ouvrage qui est perpendiculaire. Et quand c'est bloqué, surtout que sur nos côtes togolaises et béninoises, comme la dérive va de l'ouest, côté Ghana, vers l'est, côté Bénin, donc, en mettant un ouvrage perpendiculaire, le sable est bloqué, et donc la mer ne trouvant plus le sable côté est, la mer va chercher ça. Et en cherchant le sable, donc tout ce qui est devant comme infrastructure, il fait descendre ça, et c'est ça les réseaux côtiers.
D'accord. Monsieur Zebio, parlons maintenant des travaux qui seront exécutés. C'est vrai que l'émission que nous animons aujourd'hui, la Radio du Littoral, constitue également le lancement même d'ailleurs de ces travaux. Alors, concrètement, qu'est-ce qui sera fait sur le terrain?
Oui, concrètement, donc on l'a dit, tout le monde, le coordonnateur national l'a dit, nous avons à mettre en place, comme on l'a déjà fait aussi, hein, de Abodrafo à la frontière, des épis. Donc sur le segment qui va donc de Bodjomé à Abodrafo, 20 épis sont prévus. Pour ceux qui nous suivent, qui ne comprennent pas le français, eux-mêmes ils appellent ça Kpibo. Donc Kpibo, Amewi, Emilia Doré, Bodjomé Soy, Abodrafo. Voire Amefe Tchambalé. Donc il y a deux qui sont prévus à Goumoukopé, pour protéger là-bas, parce qu'on a vu que l'érosion est accélérée aussi là-bas. Et en plus donc de ça, donc, bien sûr, quand on finit, comme on l'avait fait donc avec les travaux au Togo Bénin, il y a un rechargement donc des casiers donc des 22 épis avec du sable, près de 800 000 mètres cubes de sable qu'on va aller chercher avec des bateaux que nous appelons des dragues, mais dans le jargon national. Donc on va aller chercher à 10 km de nos côtes en mer. Et c'est prévu également qu'on recharge, qu'on comble les bras lagunaires d'Aného, pour ceux qui connaissent l'embouchure d'Aného. Côté Bénin, avec les travaux que nous avons faits précédemment, avait été déjà fermé. Donc on va faire exactement la même chose. On va combler tous ces bras lagunaires. Il y en a deux au niveau de l'embouchure, avec du sable également, qu'on va aller chercher à 10 km de nos côtes en mer avec des bateaux. Donc il y a près de 450 000 mètres cubes, donc de rechargement en sable. Et une fois que c'est comblé là-bas, c'est prévu un reboisement en cocotier, donc de 10 hectares dessus, comme ça a été fait exactement côté Bénin. Et donc voilà en gros ce qui est prévu comme travaux. Donc vous le savez que pour faire les épis, il faut aller chercher les enrochements. Donc on ira chercher ça dans le Zio, l'Hélicopé ou à Gbelouvé. Donc près de 150 000 mètres cubes d'enrochements sont prévus à convoyer de là-bas pour la construction des épis. Donc voilà en gros ce qui est prévu de réaliser pendant 18 mois. Donc le coordonnateur adjoint l'avait dit, pendant 18 mois. Donc c'est commencé donc ce mois de juin. Donc on va finir vers la fin de l'année 2026.
Mais entre-temps, c'est vrai que nous avons appris qu'il y a des brise-lames qui seront posées. Mais finalement, comment se fait-il que à la place, en place et lieu alors des brise-lames, on préfère maintenant les épis?
Oui, vous savez, la lutte contre l'érosion côtière, il y a plusieurs solutions hein, qui sont généralement regroupées par en deux grandes catégories. Il y a les solutions dures. Donc dans les solutions dures, vous avez les épis et puis les brises lames dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a les digues, il y a plein d'autres choses, donc tout ce qui est dur. Mais il y a aussi les solutions douces, notamment les rechargements en sable, les protections basées sur la nature, etc. etc. Dans le cadre de Waka, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui connaissent un peu, ou du moins qui traversent souvent la frontière en Europe pour aller dans le Bénin, donc avec les précédents travaux, on avait fait les épis côté Togo, on a fait aussi des épis côté Bénin, mais en plus donc, de cette solution du dépit, il y a eu du rechargement du sable, près de 4 millions de mètres cubes massifs, rechargement de près de 4 millions de mètres cubes que les bateaux, la drague, sont allés chercher à 10 km des côtes du Bénin pour recharger là-bas. Donc, si vous faites côté Bénin, ceux qui connaissent un peu donc, le Bénin, vous allez voir qu'on a gagné là-bas dans la mer 200 mètres sur près de 5 km. Eux-mêmes, ils appellent ça dans leur jargon là-bas piste d'atterrissage parce que c'est grand, ils n'ont jamais vu ça. Donc, ça, c'est une solution douce. Donc, Waka ne fait pas que les épis. Waka, bon, quand je dis Waka Togo, oui, on a, nous, c'est les épis, mais ce contrat qui était un contrat unique. Hein, qui est la régionalisation que le coordonnateur agent en avait parlé, parce qu'on travaille au Togo, il y a problème au Bénin. Et donc, là, vous voyez qu'il y a eu quand même des solutions douces de rechargement côté Bénin, mais côté Togo, nous n'avons pas pu le faire. Pourquoi? On n'a pas adopté le rechargement massif, donc solution douce, tout simplement parce que, comme je le dis tout à l'heure, la dérive allant du Ghana, donc l'ouest vers le Bénin, qui est l'est, si nous nous mettons du rechargement massif côté Togo pour protéger, avec le temps, tout ce sable va quitter pour aller vers le Bénin. Donc, c'est comme nous, on est en train de nourrir le Bénin. Et il y a aussi le risque de l'embouchure, la passe d'Aného, qui risque d'être comblée par tout ce sable quand on va quitter le Togo pour aller vers le Bénin. Donc, c'est ça qui fait que, pour, comme je l'ai dit, comme il y a plusieurs solutions techniques pour pouvoir résoudre, on peut prendre les brises là, on peut prendre les épis, mais chaque solution, quand on fait l'étude, parce qu'avant de mettre en place, ou du moins de commencer les travaux, c'est précédé d'abord par une étude technique hein, qui est d'ailleurs même généralement faite par des cabinets internationaux hein, qui sont spécialisés dans ça. Donc, pour voir quelle est la meilleure solution possible pour la zone, mais pour le pays. Donc, nous, on était obligés de choisir les épis, en tout cas avec le ministère de l'Environnement, le projet Waka, tout simplement parce que quand nous croisons tous les critères, parce qu'il y a plusieurs critères, on ne se lève pas et puis on choisit telle solution que c'est 12, mais telle solution que c'est une solution dure. Mais on croise tous les critères financiers, les critères environnementaux, les critères sociaux, tout, plein, il y a plein de critères. Donc, on fait l'analyse de tous ces critères et on choisit la meilleure qui est adaptée. Donc, vu les moyens et vu les critères, vu les résultats dans les critères, ce qui est meilleur, qui est adapté et qui était fait d'ailleurs même déjà, puisque les épis ont été déjà mis en place par le gouvernement déjà dans la zone d'Aného. Donc, les études ont démontré qu'en mettant ça en place, ça pouvait facilement résoudre le problème. Mais on peut facilement aussi faire les brises-lames. Ça aussi, c'est une solution technique qui permet de résoudre. Mais lui aussi, il a ses avantages et ses inconvénients.
Tout à fait.
Et ses avantages, il y en a plein. Par exemple, quand vous mettez en place une brise-lame, d'abord, c'est nettement plus cher, mais comme avantage, ça permet de gagner la terre dans la mer, puisque c'est parallèle et c'est dans la mer. Et donc, vous pouvez gagner la terre derrière pour faire plein d'ouvrages, hein, notamment des hôtels, donc, recueillir tout aussi. Mais ça aussi, des inconvénients. Donc, ça dépend de l'objectif que vous vous êtes fixé. En plus, bien sûr, de la protection côtière et des résultats de la sécurité.
D'accord. Alors, quand on parle alors des épis, concrètement, c'est quoi leur durée de protection alors de la côte?
Les épis, c'est un ouvrage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ouvrage de génie civil. Et généralement, les ouvrages de cette importance, les calculs se font avec une période de retour, disons, de 50 ans. Des événements qui peuvent résister à des événements qui peuvent survivre tous les 50 ans. Et donc, les épis que nous allons mettre en place sont calculés pour des événements de 50 ans. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va durer que 50 ans. Ça peut durer plus. Et quand on parle du rechargement, par exemple, que se vendent les casiers, eux, par contre, ce n'est pas pour 50 ans. Ils sont calculés pour ne durer que pour 15 ans. Donc, en plus de l'entretien, la maintenance, si ça se fait très bien, vous avez des ouvrages qui peuvent durer, mais il n'y a rien qui est éternel, vous le savez. C'est calculé au moins pour résister à tout événement de 50 ans. La preuve en est que les épis, les premiers épis mis en place par le gouvernement fonctionnent parfaitement très bien et sont toujours là et protègent parfaitement leur zone, puisque ça a été mis en place depuis les années 85, donc ça fait bientôt 50 ans.
D'accord. Monsieur Zébio, quelles sont les dispositions prises au niveau des populations pour que ces travaux se déroulent dans de bonnes conditions?
Bon, au niveau de la population, il y a plusieurs dispositions qui sont prises. Je pense que plus tard, mon collègue côté environnement et social va peut-être intervenir aussi pour donner plus de détails. Mais tout ce que je peux vous dire de façon ramassée est que toutes les dispositions prises, hein, comme le demande d'ailleurs le procureur des bailleurs de fonds et également le procureur du Togo, toutes les dispositions prises pour que les travaux se fassent sans créer aucun gêne, zéro risque d'accident, zéro risque de problème, et tous les mécanismes sont en place, je crois que mon collègue reviendra pour le dire, pour vraiment donner peut-être plus de détails, que tout sera fait vraiment de telle manière que tout se passe, comme d'ailleurs ça a été déjà fait pour les travaux frontaliers, transfrontaliers Togo-Bénin, à Boudrafort frontière.
Et comme c'est des propos alors d'un ingénieur senior, nous y croyons et nous savons vraiment que ça pourra marcher ainsi tel que vous l'avez dit. Monsieur Zébio, merci d'être passé alors dans cette émission. Vous l'avez si bien dit, vous avez introduit même d'ailleurs votre collègue de l'environnement, bien sûr. Et nous allons discuter justement avec lui aussi sur ce plateau. Et c'est bien sûr Juliette qui va se charger de poser des questions à Monsieur Nanzari. Monsieur Nanzari qui s'installe déjà. Juliette, vous avez la parole.
Merci Pascal de m'avoir donné la parole. Je vais donc m'entretenir avec le plus riverain de toutes les communautés. Quand je dis le plus riverain, vous allez comprendre qu'il est dans toutes les communautés. Il est avec les communautés. C'est lui qui comprend si tout est respecté, si les communautés n'ont pas des propositions, si elles n'ont pas des problèmes, si elles ont des suggestions à faire. Il est donc le trait d'union entre Ouata et les communautés où le projet intervient. Monsieur Nanzari Doukman, bonjour.
Bonjour Juliette, comment vous allez?
Je vais super bien, et vous?
Moi aussi je vais très bien, merci.
Comme je venais de le dire, vous allez nous dire dès l'entame quelles sont les communautés qui sont réellement concernées par ces travaux de protection côtière sur le segment Bodjomé, Agodrafor, Gounoukopé, les communautés réellement concernées.
Merci, merci de nous donner l'opportunité une fois encore de sensibiliser, d'informer les populations bénéficiaires sur le projet Ouaka. Effectivement, pour ce projet de protection côtière Bodjomé, Agodrafor, Gounoukopé, les localités Bodjomé, notamment au sein de Bodjomé, nous avons le quartier Apagliputa, nous avons Tango, ensuite le village de Vikeme, Nimanya, Alogavie, son quartier Adissim, Agodrafor et Gounoukopé sont concernés par ce projet.
Et au cours de ces travaux, il y a le volet plan d'action pour la réinstallation des personnes affectées. Pourquoi il faut réinstaller certaines personnes? Pour quelles raisons?
Oui, la raison est simple, parce que, comme mon prédécesseur venait de le dire, dans la consistance des travaux, il faut construire des épis, il faut faire des rechargements entre les casiers, il faut, en tout cas, de l'espace aux engins pour circuler, et il faut aussi stocker les melons, les arrochements. Donc, toutes ces activités-là induisent la réinstallation des personnes qui se trouvent sur ces espaces.
D'accord. Donc, ces activités font que certaines personnes sont touchées et donc il faut les réinstaller.
Exactement.
On a vu, c'est un segment assez long, c'est une vaste communauté, mais est-ce que tout le monde dans cette communauté peut s'attendre à être réinstallé ou à être indemnisé pour une raison que ce soit?
Non, c'est seulement ces personnes-là qui sont dans l'emprise du projet. Seulement ces personnes qui se trouvent dans l'emprise du projet. Je venais de citer les activités une par une en prenant les zones de stockage. On a besoin d'un espace pour stocker les enrochements. Donc, tous ceux qui se trouvent dans les zones de stockage, il y en a six. Il y en a à Bodjomé, à Devikeme, à Nimanya, à Logavi, à Godrafo et Gumukopé. Tous ceux qui y mènent des activités en termes de génération de revenus ou d'habitation, ces gens ont des cocotiers sur ces espaces-là. Ces personnes sont affectées. Voilà.
En termes clairs, si j'avais peut-être ma parcelle de maraîchage qui se trouve dans une zone où on viendra mettre les blocs, je suis personne affectée.
Exactement,
donc,
c'est ça.
Est-ce que vous pouvez aller en langue locale, hein, pour si vous vous sentez à l'aise, pour vraiment dire les critères pour lesquels, parce que ça peut faire des mécontents, vous êtes dans la communauté, vous connaissez mieux les problèmes. Et si on peut revenir sur les critères précis, vraiment pour être pris en compte dans le dédommagement qui va avoir lieu.
Oui, merci. Effectivement, pour être personne affectée par le projet, il faut remplir certains critères. Notamment, il faut être dans l'emprise. Je venais de définir l'emprise. L'emprise est définie selon le type d'activité. Je parlais tantôt de zone de stockage. Voilà, c'est une zone, c'est une aire délimitée. Entre-temps, on avait eu même à implanter les plaques de sensibilisation là-dessus pour que les gens connaissent que ces zones-là sont requises pour les travaux du projet. À part ça, les voies de circulation entre les épis, on parlait de 22 épis. Quand on va quitter d'un épi à un autre épi, les engins de l'entreprise ont besoin de circuler sur une voie donnée, déjà tracée le long de la côte, une voie de largeur de 10 mètres. Tous ceux qui se trouvent sur cette emprise de la voie-là sont aussi dans l'emprise. Au niveau de chaque épi, voilà, l'ingénieur a donné la consistance des travaux, notamment pour les épis. Les épis varient de 65 à 75 mètres. Donc, pour un épi, nous avons comme emprise une surface rectangulaire, disons de 100 mètres sur 55 mètres de large, 100 mètres de long sur 55 mètres de large. Tous ceux qui se retrouvent dans ces espaces-là sont des personnes affectées. Il y a de deux types. Ils peuvent être là et être propriétaire terrien. Et ne pas aussi être propriétaire terrain, mais quand bien même qu'ils utilisent l'espace. Donc, pour ceux qui sont propriétaires terrain, avec la preuve à l'appui, ils sont indemnisés pour ce qu'ils font sur la terre, en termes de, par exemple, activités de maraîchage ou plantation de cocotiers, etc. Et au-delà de ça, ils sont aussi indemnisés pour le foncier. Mais dans la plupart des cas, c'est le domaine public maritime. C'est un domaine qui appartient à l'État. Donc, ce n'est pas pour des gens. Et pour cela, les activités sont compensées, sont indemnisées, mais pas la terre. Voilà. Et aussi, il y a aussi ce que nous appelons la date butoir. Pour être PAP aussi, il faut se faire recenser. Et la dernière date de recensement, c'était le 20 mai 2023. Voilà. Après cette date, celui-là qui vient pour améliorer ses activités sur le site. En terme, on avait compté 10 cocotiers, par exemple, là, il vient mettre 2 cocotiers de plus, ou bien on avait comptabilisé tel nombre de pièces, alors il vient pour ériger encore d'autres pièces en supplément, donc ils ne seront plus pris en compte. Merci.
Monsieur Nadjari, dans votre explication, vous avez énormément cité les plans de cocotiers, les maraîchers, mais si je suis pêcheur, et que j'utilisais peut-être l'emprise pour aller lancer mes filets, les tirer. Je suis personne affectée.
Oui, justement, puisque je parlais d'espace et j'ai parlé aussi de activités génératrices de revenus. Donc, si l'espace vous procure des revenus tels que maraîchage ou tels que vous parquez vos, comment on appelle ça, les filets ou les pirogues là-dessus. Même la mer, au niveau même de la mer, voilà. Donc, toutes ces personnes-là sont affectées au niveau de ces espaces. Vous allez voir que, entre-temps, nous avons eu à afficher ces noms, les noms des personnes affectées, du nombre de 296 personnes. Il y a, bien sûr, il y a des pêcheurs dedans, il y a des maraîchers, il y a aussi les propriétaires de restaurants, bars, loisirs qui sont aussi dedans. Eux, ils seront payés pour la perte de revenus.
Et maintenant, en quoi consiste maintenant la réinstallation de ces personnes affectées par le projet?
Comme vous l'entendez, la réinstallation, ces personnes étaient quelque part et du fait du projet doivent libérer l'espace. La réinstallation est de deux formes. Elle est d'abord économique et ou physique. Si c'est les sources de revenus, les moyens de subsistance qui sont affectés, donc on parle de réinstallation économique. On essaie, par rapport à la perturbation que le projet va générer sur vos activités génératrices de revenus, on va vous compenser par rapport à cela. Mais si c'est physique, quand on parle de réinstallation physique, c'est lorsque votre logement, là où vous habitez, est requis pour les travaux. Vous êtes obligé de vous déplacer. Là, on parle de réinstallation physique. Et ça dépend. Des gens peuvent être même dans les deux cas, réinstallation physique et économique.
Monsieur Nadjari Loukman, dites-nous maintenant, à ce stade, vous nous avez parlé des noms qui sont déjà affichés par rapport au plan d'action de réinstallation. À ce stade, qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les travaux que vous êtes en train de faire sur ce volet?
Ok, merci. À ce stade, nous pouvons dire que nous avons déjà commencé les indemnisations. Comme vous savez, pour commencer toute activité, la construction des ouvrages, c'est tout comme on veut bâtir un bâtiment. Il faut quand même commencer à voir quelque part stocker les matériaux en termes de, par exemple, gravier, sable, ciment et autres. Dans ces zones-là, c'est ces zones-là qui sont dites zones de stockage. On a déjà commencé par, on a même fini, même j'allais dire, finir par indemniser les personnes affectées par les six zones de stockage. Mais il y a eu des actions préalables qui ont précédé cela. On les a sensibilisés. On les a sensibilisés sur la conduite à tenir. Quelles sont les pièces aussi à se munir pour pouvoir venir prétendre à l'indemnisation. Donc ça a été déjà fait. Et suivi de ça, nous avons eu aussi à sensibiliser les communautés en général, les PAP aussi en particulier, par rapport aux travaux, les expliquer sur les emprises des différentes activités du projet et autres. Donc le calendrier prochain, l'agenda prochain, c'est le paiement, la compensation du reste des personnes affectées par le projet. On a affiché ces noms pour que ces gens-là sachent qu'ils sont affectés et de commencer par se munir, préparer pour ces pièces-là à se munir lors de les indemnisations.
D'accord, je le disais à l'entame, vous êtes spécialiste en sauvegarde sociale et genre. Je m'amusais même à dire que vous êtes le plus riverain de toutes les communautés. Avec toutes les activités qui ont été faites, est-ce qu'il y a des plaintes? Est-ce que c'est plutôt de la satisfaction ou peut-être des remous? Est-ce que vous avez des retours par rapport à tout cela?
Merci. Vous savez qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Notamment, et nous enregistrons quelques préoccupations des bénéficiaires, et notamment les prétentions à l'indemnisation. Malgré que ça fait, si je compte cette radio du littoral, là, peut-être ça fait quatrième fois qu'on revient sur les emprises. Mais bon, quand les riverains voient que leur voisin a quelque chose que lui n'en a pas, il veut prétendre à l'indemnisation. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est l'emprise. Il faut être dans l'emprise. Voilà. Il ne suffit pas seulement d'être à la plage ou bien d'être dans la localité, comme on parle de projet dans la localité, automatiquement vous êtes non. Donc il y a ces questions-là qui viennent qu'on règle. Et on s'est aussi vraiment appuyé sur notre mécanisme de gestion des plaintes. Vous savez, dans toutes les localités bénéficiaires du projet, nous avons eu entre-temps à installer des comités locaux de gestion des plaintes. Mais avec l'appui de ces comités, que sont notamment la mairie avec le président, et le maire est le comité communal de gestion des plaintes. Au niveau du canton, c'est le chef canton qui est le président du comité cantonal de gestion des plaintes. Et ainsi de suite jusqu'au niveau village et quartier. Donc tous ces acteurs, toute cette chaîne d'acteurs-là ont été formés, redynamisés sur l'enregistrement des plaintes. Parce qu'on sait qu'avec les travaux qui s'annoncent là, il y aura pas mal de plaintes.
Monsieur Nadjari Loukman, spécialiste en sauvegarde sociale et genre, on me fait signe que le temps nous talonne. Nous allons vous dire merci.
C'est moi qui vous remercie.
Lulette, merci à vous et merci aussi à monsieur Nadjari Loukman pour ses explications. Et je sais que monsieur Loukman a beaucoup de choses à nous dire. Et ce qui est sûr, dans la deuxième partie de cette émission, on aura à lui poser des questions. Je sais que l'assistance a beaucoup de questions à lui poser. Et aussi, ceux qui nous écoutent pourront également nous appeler déjà dans la deuxième partie de cette émission pour poser des questions aux spécialistes qui sont sur le plateau avec nous. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'entreprise qui va exécuter les travaux. L'entreprise, c'est bien l'entreprise Boscali. Et cette entreprise, bien sûr, on se pose la question de savoir comment les travaux se feront sur le terrain. Et donc, il y a un représentant de l'entreprise qui va mieux nous expliquer cela et répondre à ces questions. Et c'est avec vous, Hugues Vigneault-Atipo.
Oui, merci beaucoup, Pascal. Pour réaliser ces,
travaux, eh bien, le projet Waka a fait confiance donc à l'entreprise Boscalis International, qui est déjà, qui est spécialiste de l'exécution de ces types de travaux, qui a déjà donc réalisé les travaux de protection côtière sur une distance de 18 km entre Agbodirafo et Sanvic-Kondian en 2023. Alors, l'entreprise Boscalis est fortement représentée par une délégation de 3 personnes. Alors, elles viendront donc nous expliciter comment ces travaux vont dérouler. Nous allons nous entretenir tout d'abord avec M. Ward Merken. Il est le représentant de l'entreprise Boscalis. M. Ward Merken, bonjour.
Bonjour, messieurs, mesdames.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va d'abord parler de des différentes phases de ces travaux. En quoi ces travaux vont consister?
Oui,
concrètement.
On peut un peu expliquer comment ça va se dérouler. Hein. Donc, on va bien sûr construire 22 épis entre ici et Khmokopé. Après, il y aura aussi le comblement de bras morts lagunaires au niveau de Aneo. Et après, il y a aussi le comblement de cassés entre les épis. Donc, en général, ça sera... d'abord, on est en train de préparer les plans qui nous auront besoin d'être validés par le maître œuvre et le maître ouvrage. Après, ces plans sont validés. On commence avec la production des enrochements dans la carrière. Après ça, on prépare les zones de stockage, comme Waka a déjà expliqué. On aura 6 zones de stockage. Après, il y aura le transport entre la carrière et les zones de stockage. Et après ça, on commence avec épi par épi, construire épi par épi pour mettre les enrochements dans la mer en cours. Après ça, on va mobiliser les dragues qui vont arriver et qui vont draguer de la zone d'empreinte vers la zone de bras morts lagunaires et aussi entre le cassier et des épis. Et après, c'est encore planter le cocotier, comme c'est déjà expliqué par M. Nadjari.
Voilà donc ces différentes phases de l'exécution des travaux. Je rappelle que 22 épis seront donc construits pour la protection donc sur ce segment. Alors, vous êtes accompagné par M. Ariale Kokouvi Dodi, qui est également le représentant local de l'entreprise Boscalis. Alors, M. Ariale Kokouvi Dodi, en quoi ont consisté les études préliminaires que vous avez menées avant le début des travaux proprement dit?
Bonjour, chers journalistes, et bonjour, chers auditeurs. Merci pour la question. L'étude préliminaire dans l'étude de la réalisation des épis consiste, dans un premier temps, à faire une analyse des enrochements par rapport à leur densité, leur capacité d'absorption, puisque les mers seront, les enrochements seront mis dans la mer. Donc, il faut tout tester leur qualité avant de pouvoir se prononcer et le faire valider par les maîtres d'ouvrage. Donc, dans la préparation, nous faisons les analyses des enrochements et aussi l'analyse des sables qui sera dragué en mer pour combler la côte.
Voilà. Et les riverains peuvent-ils ou bien les personnes des communautés peuvent-elles servir comme maîtres d'œuvre ou seront-ils recrutés pour apporter leur contribution à l'exécution de ces travaux?
Merci. C'est des questions qui reviennent souvent parce qu'on ne peut pas faire de projet tout en négligeant toute une communauté. C'est vrai que les travaux des épis sont des travaux de haute qualité qui nécessitent une ingénierie pas possible. Et la plupart de ces ingénieurs nous viennent de l'extérieur. C'est la plupart de nos frères des Pays-Bas, des Hollandais, qui seront là. Mais par contre, néanmoins, on aura besoin de la main-d'œuvre locale pour certains métiers comme des conducteurs d'engins,
oui.
Des infirmiers,
oui.
Des femmes qui peuvent faire des entretiens, du personnel administratif, on en aura besoin également. Donc on a même les drapeautiers qui serviront à diriger la circulation par rapport au transport des enrochements. Donc les travaux se feront en étroite collaboration avec la communauté avec laquelle nous allons faire ce placement d'épi.
Voilà, il y a une part belle qui sera réservée donc aux personnes issues de communautés pour aider donc à l'exécution de cette tâche. Alors, le comblement des bras lagunaires d'Anero sera aussi une mission assez délicate dans le cadre de l'exécution de ces travaux. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur comment ce type de mission sera exécutée?
Comme vous venez de le dire, l'encombrement du bras lagunaire d'Anero, c'est une mission très délicate où il faut du professionnalisme pour le faire. C'est une retenue d'eau qu'il faut combler avec du sable. Et il faut pas le faire d'une manière pour que l'eau puisse déménager la population riveraine. Donc, dans ce cas d'espèce, il faut des ingénieurs qui ont déjà fait des études en amont et il sera dirigé une digue de sable côté riverain avec une hauteur possible pour que lorsqu'on fera le refoulement de sable, ils ne seront pas impactés. Donc, c'est vraiment une activité très, très délicate. Mais comme c'est notre spécialité de le faire, on le fera et tout le monde sera satisfait.
Merci beaucoup, Monsieur Ayale Kokouvi Dodi. Je rappelle que vous êtes le représentant local de l'entreprise Boscalis. Alors, je parlais tout à l'heure d'une forte délégation, puisqu'il y a également dans la délégation Madame Tossa Parfaite. Alors, Madame, bonjour.
Bonjour.
Alors, ces travaux vont sûrement avoir des incidences sur l'environnement de la zone. Quelles sont les dispositions que vous prévoyez de prendre pour respecter aussi bien les normes environnementales et les réglementations locales et nationales en matière donc de la protection côtière?
Bonjour, chers auditeurs, chers journalistes. Et la devise de l'entreprise Boscalis, c'est zéro accident, zéro incidence. Et nous l'avons déjà prouvé pendant l'exécution du projet précédent. Nous sommes dans un pays où les normes en matière d'environnement doivent être respectées, quelle que soit l'entreprise qui doit amener ces travaux d'envergure. Donc, nous avons l'habitude de faire de tout ce qui est de notre possible pour que ces normes soient respectées. Nous le ferons encore, nous allons encore démontrer de quoi nous sommes capables. Et nous ne promettons pas, nous ne sommes pas en train de faire notre éloge, mais nous ferons tout pour qu'il y ait zéro incident, comme ça a été fait dans l'exécution des travaux précédents.
Donc, vous rassurez Togbi que ces travaux à long terme n'auront pas d'impact négatif sur l'environnement de Bodiome ou bien de ces zones qui vont accueillir ces épis-là.
Tout ce que nous pouvons ajouter, c'est tout ce qui a été inscrit dans les plans de gestion environnementale et sociale, plans de sécurité, tout ça là seront respectés de manière à ce que demain, qu'il n'y ait pas d'impact qui sera invoqué après que les travaux aient terminé. C'est vrai que tout travaux a ses limites, mais nous comptons faire les activités pour que les limites données, la durée de vie qui doit être vraiment donnée à ces travaux, soient vraiment respectées. Nous promettons de mettre le professionnalisme à disposition pour finir ces travaux, pour bien faire ces travaux.
Et justement, quelle collaboration va exister dans la réalisation donc de ces ouvrages entre l'entreprise Boscalis et les autorités locales?
Oui, merci pour la question. Vous savez, pour ce genre de travaux, si vous n'avez pas de collaboration avec Monsieur Najare l'a dit, assez bien dit, si vous ne travaillez pas avec la communauté, le coordonnateur adjoint aussi, ce que vous faites contre la communauté, vous ne le faites pas pour la communauté. Donc ces travaux, si vous n'associez pas la communauté, vous ne pouvez pas réussir. Nous avons déjà commencé par prendre des attaches. D'accord. Nous sommes déjà allés voir monsieur le préfet pour expliquer, pour se présenter, dire qu'on est là. La dernière fois, on a été aller voir monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour, c'est qu'il est là. Nous sommes allés le voir pour mettre en place la stratégie à utiliser pour pouvoir impliquer tout ce qui est population pour que demain, tout le monde soit satisfait de ce qui est fait. Ce qui est sûr, des séances, nous avons l'habitude de le faire. Quelle que soit l'étape du projet, il y a toujours des séances de sensibilisation, d'information qui dévancent. Donc c'est pour dire que même si on commence aujourd'hui, et si c'est dragage, avant de commencer le dragage, la population doit être informée de ce que le dragage veut commencer et c'est telle mesure qu'il faut prendre pour sécuriser et pour éviter qu'il y ait des accidents. Ce serait fait.
Voilà. Merci. Justement, quel est votre message à l'endroit aussi bien des riverains, aussi bien des autorités locales?
Oui, nous sollicitons l'adhésion de tous. Nous voudrons que tout le monde puisse nous accompagner. C'est vrai, comme l'a dit M. Bruno, nous ferons tout, et c'est ça qui est le point prioritaire des autorités. Nous ferons tout pour que la main-d'œuvre locale puisse être vraiment impliquée. Et pour cela, nous voudrions qu'ils nous accompagnent, et les autorités, et les chefs cantons, et les chefs villages, la population, toute personne qui se sent vraiment concernée par ces travaux, à nous aider à vraiment réussir le pari. Zéro accident, zéro incidence. Merci.
Merci beaucoup aux trois représentants de l'entreprise Boscalis International qui sont venus donc nous expliciter bien évidemment comment ces travaux vont se dérouler et la collaboration qui doit exister entre l'entreprise et les autorités locales Ward Merken, Monsieur Ayale Kokouvi Dodi et Madame Tossa Parfaite. Pasteur, je vous retourne le micro.
Merci beaucoup, Hugues Vignon Atiko, pour votre entretien avec la forte délégation. Vous l'avez si bien dit, c'est une forte délégation de trois personnes de l'entreprise Boscalis. Et là, c'est vrai, ils nous ont expliqué beaucoup de choses sur la faisabilité ou l'exécution même d'ailleurs de ces travaux. Et ils ont rassuré même d'ailleurs la population de ce que ces travaux se feront sans accident ni incident. C'est bien ça. Et donc, vous l'avez si bien dit, vous demandiez s'il rassurait la population devant Tobi. Ce n'est pas que devant Tobi, mais devant le maire aussi.
Oui,
le maire des Lacs 3 qui est justement alors ici parmi l'assistance. Et nous saluons sa présence dans cette rencontre ou à cette émission. Mais il est déjà midi et comme le principe de l'émission, déjà à midi, nous allons donner la parole à ceux qui font vivre cette émission. Nous allons leur donner la parole. Nous reviendrons justement pour la deuxième partie alors de cette émission où nous donnerons la parole bien sûr au maire qui va s'exprimer aussi sur ce projet et au-delà de cela. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont passés par ce plateau pour rassurer la population. Mais nous allons écouter aussi cette population pour voir exactement ce qu'ils pensent alors de ce projet. Merci à vous. Nous allons donner la parole justement à nos annonceurs.
93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission, la radio du littoral, cette émission que nous animons depuis le palais royal de Bodjomé. Bien sûr, nous sommes dans le canton de Bodjomé. Et cette émission est animée sur autour du thème « Mise en œuvre du PAR et démarrage des travaux de protection côtière du segment Bodjomé à Godrafort, Goumoukopé ». Et vous savez très bien, à travers cette émission, nous essayons justement d'apporter des précisions sur l'imminence des travaux du segment de la côte, la consistance des travaux et la mise en œuvre œuvre du pas avec, bien sûr, les différents acteurs impliqués dans la réalisation de ces travaux. Et nous avons écouté de différents acteurs autour alors de ce plateau et qui nous ont expliqué la manière dont les travaux se feront. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la mission de contrôle, justement parce que avec l'entreprise Boscalis, il y a une mission de contrôle, bien sûr, qui va suivre ces travaux. Et donc, il y a un représentant de cette mission de contrôle avec nous. Hugues Vignon-Atipo, je vous redonne la parole pour cet entretien avec le représentant de la mission de contrôle.
Merci beaucoup, Pascal, pour s'assurer de la conformité et de ces travaux. Eh bien, une mission de contrôle va gérer tout l'aspect logistique de contrôle de conformité, et c'est la mission de contrôle INROS-LACNER dont nous avons la chance d'avoir le chef de mission adjoint avec nous dans cette 29e émission du Littoral, Monsieur Albert Limazier. Bonjour.
Bonjour à Yves et à tous les auditeurs de la radio du Littoral.
Merci d'être avec nous. Alors, en quoi consiste le rôle d'une mission de contrôle pour une entreprise chargée donc des travaux de protection côtière comme les travaux qui vont démarrer bientôt?
Alors, nous pouvons dire que le rôle d'une mission de contrôle est de veiller au respect strict des spécifications techniques du projet. Donc concrètement, cela va se traduire par la vérification de la qualité des intrants qui vont entrer dans la construction des ouvrages. Oui. Également le respect des méthodes de construction, le contrôle des délais d'exécution. Notre rôle aussi, c'est de veiller à ce que ces travaux soient réalisés dans le temps imparti au projet. Alors, nous avons aussi le rôle d'assurer le respect également des normes environnementales, sociales et sécuritaires du projet également. Donc, notre objectif, en fait, en tant que mission de contrôle, c'est de garantir que les ouvrages réalisés soient durables, efficaces, et puis qui respectent les règles ou les exigences du projet. Donc voilà globalement ce que je peux dire par rapport au rôle de la mission de contrôle.
Et justement, j'allais vous demander les défis liés donc à cette mission de contrôle. Ces défis sont énormes.
Énormes, voilà. Mais bon, pour se résumer, peut-être qu'on citera quelques-uns. Et au nombre de ces défis, on va parler déjà de la complexité, de la complexité technique la réalisation de ces ouvrages qui induisent dans leur cinématique opérationnelle l'utilisation des engins lourds. Et donc, c'est un défi à relever. Et ça se traduira également d'abord en amont par la vérification, l'approbation des procédures d'exécution que l'entreprise soumettra à notre approbation. Également, l'autre défi concerne les interactions avec les communautés riveraines qui sont à côté des ouvrages. Donc, il faut garantir une parfaite coordination avec ces communautés riveraines et tous les autres acteurs aussi impliqués dans ce projet. Alors, il faut également anticiper les problèmes d'ordre environnementaux. On va dire aussi tout ce qui est impact environnemental, social. Donc, tous ces défis sont anticipés à travers des campagnes de sensibilisation. Je pense que mes prédécesseurs, ils l'ont clairement expliqué. Et donc, c'est l'ensemble de tous ces défis on va dire que ça se résume, en tout cas dans notre rôle que je viens de citer précédemment.
Ah voilà. Alors, il faut dire quand même que l'un de vos cahiers de charges, ou bien le cahier de charges assez principal, c'est garantir aussi bien la durabilité et la pérennité des ouvrages qui seront exécutés. Quels sont les leviers que votre mission de contrôle, plus précisément INROS-LACNER, dispose pour atteindre véritablement cet objectif-là?
Alors, nous disposons de plusieurs leviers, hein, mais je vais juste aborder les leviers essentiels qui concernent dans un premier temps au contrôle régulier que nous allons opérer sur les sites. Cela se traduira peut-être par des inspections quotidiennes sur les sites des travaux et des inspections inopinées également sur les carrières des travaux. Également, nous ferons des prélèvements et des essais hein, sur les matériaux qui vont servir à la construction des ouvrages dans des laboratoires agréés également pour s'assurer de la conformité des matériaux par rapport aux spécifications techniques également. Donc, il y a ça. Il y a également une supervision permanente que nous implémentons avec nos équipes sur le terrain, des équipes constituées d'ingénieurs et de techniciens réputés et puis avec une expérience avérée dans le domaine. Aussi, l'un des leviers également, c'est les réunions hebdomadaires que nous organisons avec l'entreprise, avec le maître d'ouvrage et tous les acteurs impliqués pour discuter des problèmes, des difficultés rencontrées et les anticiper avant même qu'ils ne surviennent lors de l'exécution des travaux. Donc voilà quelques-uns des leviers que nous pouvons activer à tout moment.
Donc il faut dire qu'il doit y avoir une synergie d'action entre la mission de contrôle et l'entreprise qui réalise les ouvrages. Alors, si vous avez un message à l'endroit de tous ces acteurs qui vont intervenir dans la réalisation de ces ouvrages, quel sera votre message à l'endroit de tous ces acteurs?
Bien, notre message, il est simple. Hein, la protection du littoral est une responsabilité commune, on va dire. Et donc, nous demanderons peut-être à tous les acteurs, les entreprises, les autorités locales traditionnelles, et puis toutes les parties prenantes en somme, à une collaboration étroite afin d'assurer ensemble la réalisation correcte de ce projet, d'assurer la pérennité de des acquis de ce projet en fin de projet. Donc, nous en appelons à leur preuve de vigilance, d'engagement surtout, et puis d'écoute pour que le projet soit bien réalisé. Donc, voilà le message que j'adresserai particulièrement aux acteurs de ce projet.
Merci beaucoup, Albert Limazier. Je rappelle que vous êtes chef de mission adjoint de la mission de contrôle de IHOS LACNER sur ce projet-là. Merci. Merci à vous.
Merci.
Merci, merci beaucoup, Hugues Vigno-Atiko, et à ton invité, Monsieur Albert Limazier. Merci d'être passé. Merci pour les différentes explications. Maintenant, nous allons nous intéresser à la communauté et notamment à la mairie ou à la commune, alors, de la Croix. Et notre cher ami, confrère Félix Dossavi va s'entretenir avec Monsieur le maire des Lacs 3 et Monsieur Hué Bonne qui justement va répondre à vos questions, n'est-ce pas, Félix?
Merci beaucoup, Pascal. Tout à fait. Monsieur Edoué Gonne, maire de la commune des Lacs 3, bonjour.
Bonjour.
Tout le plaisir.
Oui. Bonjour, messieurs les journalistes.
Merci bien, tout le plaisir pour nous de vous recevoir ici. Et on est toujours très heureux de vous avoir. Et lors de plusieurs de nos émissions, et vous êtes toujours très proche de votre population, très proche des médias aussi. Et je tiens à vous en remercier. Et alors, monsieur le maire, comment se porte la population, votre population d'abord?
Oui, la population se porte bien.
Elle se porte bien.
Elle se porte bien.
Dieu merci. Et alors, j'aimerais savoir, et face à l'érosion côtière que vous vivez, je dirais vous, en vous incluant dans la population, et au quotidien, vous vivez ça. Mais comment est-ce que la population ressent cette érosion côtière et les effets néfastes que cela entraîne?
Bien, merci. Avant de répondre à votre question, je dis bonjour à tous les auditeurs. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, c'est toute une inquiétude au niveau de la commune Lac 3, parce que nous sommes sur le littoral de 20 km. Et vous savez très bien que nous sommes entre la mer et le lac. Bon, les gens se posent la question, si un jour la mer se déborde, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais heureusement qu'à un moment donné, l'État a pris vraiment ses responsabilités pour nous amener un projet dit Ouaka, qui a commencé depuis 2018. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des avancées dans le projet. Et je pense aussi que ces inquiétudes commencent par diminuer parce que depuis l'année passée, on a senti que les travaux que le projet a exécutés commencent par donner ses fruits. Donc, c'est pour dire aussi que ce n'est plus comme il y a de cela 5 ans ou 10 ans.
Ok. Alors, et par rapport aux indemnisations, et monsieur, enfin, c'était dit que vous êtes président du comité et de gestion, n'est-ce pas?
Et des plaintes.
Des plaintes. À ce niveau, avez-vous des problèmes ou bien avez-vous des gens de votre communauté qui viennent vers vous par rapport à ce genre de questions ou par rapport aux indemnisations?
Oui, ce qui est bon dans cette gestion, c'est que avant de commencer tout travaux, il y a déjà des sensibilisations. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font au niveau du projet même. Donc les gens sont bien informés et les gens sont inscrits s'il s'agit de l'aide dédommagée. Et je pense que même les cahiers qu'ils ont mis à notre disposition, c'est des plaintes un peu rares.
D'accord. Alors pour finir, et avec vous, monsieur le maire, si éventuellement un individu ou un citoyen a jugé qu'il devrait être indemnisé et il ne l'est pas, ou il a été absent, lors du recensement, mais ce fait que il devrait en principe l'être s'il était présent, qu'avez-vous à dire à cette population, à ces citoyens, par rapport à ces inquiétudes?
Oui, tout à l'heure, je disais que il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du projet même.
Oui.
Et s'il y a quelqu'un, disons, s'il a été déjà inscrit sur la liste et au moment de dédommager, il n'est pas présent, je crois que ça ne pose pas tellement de problèmes.
D'accord.
Maintenant, le problème, c'est où? Le problème, c'est lorsque on a déjà passé cette étape-là et il est arrivé. Donc, ce dernier, il a la possibilité d'abord d'aller vers le chef du village. Mm-hmm. S'il n'a pas de satisfaction, il va vers le chef canton. Mm-hmm. S'il n'y en a pas, il va vers nous, la commune. S'il ne trouve pas, il y a le siège de Ouaka. Même, il peut aller jusqu'au tribunal.
D'accord.
Donc, je pense que c'est bien structuré.
Ok. Et monsieur le maire, excusez-moi de vous dire, de vous résumer en deux, trois phrases ce que vous avez dit à votre population qui, en majorité, ne comprend pas la langue de Molière.
C'est ça.
Alors, Miamé Mère Bobuto, Edoué, Gon, Midogwe.
Mouagwe.
Nyawebe, Mi Gogo, Na Miedjeji. Eye gbemi gava mi agbo mi jibe le enya de kaku vemea enya veve ke ntolea enyi be si se kele lame le mi agbo fifi ke mi pobe wakabe ame dondon va mi agbo le gaya meo
no di jwebe enya e me nyina mi e gome nyi be les miagrons et gbéa, bé, waka, projet waka, et va les communes à mer, dit Dieu Mélani. Que kédo va y a, que projet à mnanyo, à molé talasi, à me don ton chien gbéa, va pas ouing balo, va pas ouing balo. Voix, que e, nenebe nouva doa, un pobe, e, na messia me dit dopo, bé a, Edouard Clot, osu VVDB, yo mate nani, kwa, o dinavu, kakakakaka, obe yola welo de, le, apwa mesia menyaba apwa ande menyea, mounwenye, ola soko konde, po batun konyo, yola welo de kaka, elanabe, yebe, nsenke, meso le gble nou, la nyigma diya, yola, ola didi, bankobe, ekbe ya, la nyiti jwena mesia me, togwe blenzande ya vayi, surtout ameko au vivre ne nebenoa les ados madan lo la novon la pour aller de gbea la novon donc a di jwe me nyina mi be ne non we no no me a e va domia me gbe
yo ki won mi ada pe ne waka ko do government a be ason li kozon a lo e yo mi le do pe ne mi be me bobuto a wito e do e kon et nous remercions monsieur le maire qui a su résumer en une deux minutes tout ce qu'il a dit et surtout vers sa population et en langue locale. Yo, maire, akpelo.
Akpene mia chalo.
Yo.
Akpene mesi ame.
Yo. Ok, et Fifi ami, gami ali, mi keke mia ho, mia dada de ka, et a weno adechi ablam, bebe. Alou miye wan? Mia we zon lo?
Yo.
Aha. Et mia on mwa klem de kpo. Mia bi obede, et meke minyon, et doke miyono.
Nyom ni on abodo e le tango ba kwata
abodo le tango ba kwata fifi ade le abodo abe o mi ade e wakato gogo mia
wakato va nyagbo o va minglo nyabunko donc a o va bo nyabo tepe ayo la ho bo va ho o be fi kemi lo do ale a mi ma gba do ale tepe ako ta le tepe abo ho ho mia o som lo so dalo ni nyocha Benemi tasi dua nemi ngba no aho mo ne adoba no umi wa ojim lo so da lo mo na mi lo
ayo ke won mi agbonbe wa ka to do mi vide go benami alebe mi ngba da ho mi gba lo lo ke won bi da pe mi agbonbe gamia do li mi vo allo Pascal
C'est bien ça, Félix de Savi, merci beaucoup, hein, merci à vous, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous n'allons que dire merci à tous les acteurs qui se sont exprimés autour alors de ce plateau. Nous disons merci à Monsieur Ezebio César, merci à Monsieur Nadiari, Monsieur également les représentants de l'entreprise Boscalis. Merci à vous également, merci à représentant aussi hein, de la mission de contrôle. Merci à monsieur le maire pour sa disponibilité, bien sûr, puisque vous l'avez si bien dit, chaque fois il est toujours disponible,
hein, disponible.
Quand il s'agit de l'émission du littoral ou la radio du littoral, le maire est toujours disponible. Merci beaucoup monsieur le maire. Merci beaucoup Toby, merci pour votre disponibilité aussi. Merci pour l'accueil, puisque vous nous avez donné vraiment un accueil très chaleureux et nous souhaitons même d'ailleurs animer tout en nos émissions ici au palais de Togbi ici à Bodjome. Merci beaucoup Togbi. Merci chers confrères d'avoir co-animé cette émission avec moi. Félix de Savi, merci à toi. Merci Hugues Vignon Atipo, merci. Merci à Juliette Camden de Radio Lomé. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Jérôme Dakouta qui a assuré la mise en ligne de cette émission. Michel Tomega était à la mise en onde alors de cette émission ici à Bodjome. À la base au niveau de Canal FM, c'est au moins la TV qui était de l'autre côté. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission de la Radio du Littoral. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.